I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJ, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, rubrique Milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. Mona et Catherine, c'est un couple qui décide d'avoir un bébé et de l'allaiter. Jusque-là, rien de plus ordinaire. Quand vous êtes un couple de femmes, pourtant, différentes options s'offrent à vous. Qui va porter ce bébé et donc qui va accoucher? Et ensuite, qui va l'allaiter si vous faites le choix de le nourrir au sein? Pour la grossesse, impossible de partager les rôles. Alors après réflexion et un joli geste de Mona, c'est Catherine qui portera leur bébé. Devenir maman sans porter ni allaiter son enfant était difficilement concevable pour Mona. Et c'est ainsi qu'elle décide qu'elles allaiteront toutes les deux Isaïe, grâce à la lactation induite. Je vous rappelle que la lactation induite, c'est un processus par lequel vous pouvez mettre en place une lactation sans grossesse au préalable. On pourrait se dire que cela va être confortable, 4 seins pour un bébé, mais ce double allaitement va rapidement passer au statut d'indispensable pour Isaïe après un accouchement compliqué, et leur choix à toutes les deux va prendre encore plus de sens. Alors c'est l'histoire de deux femmes, d'un soutien indéfectible à tour de rôle l'une pour l'autre. C'est aussi le récit de l'admiration qu'elles peuvent susciter, tout comme l'incompréhension ou encore la discrimination de cette société qui a parfois du mal à évoluer. Elles vous raconteront mieux que moi et ça va milkshaker comme jamais. Belle écoute. Bonjour Mona, bonjour Catherine et bienvenue dans Milkshaker.
Merci beaucoup. Bonjour, bonjour.
Mona et Catherine, je suis hyper contente de vous recevoir aujourd'hui dans Milkshaker pour que vous nous racontiez votre histoire ou vos histoires d'allaitement. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour les gens qui nous écoutent?
Alors, on est Mona et Catherine, on est mariés depuis 2 ans et on s'est rencontrés il y a 7 ans. On a un petit garçon qui s'appelle Isaïe et ensemble, on a une maison d'enfants au Népal et donc on gère une grande famille d'enfants.
Ok, très bien. Donc c'est un peu comme ça, moi, que je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Et c'est votre histoire d'allaitement qui m'a interpellée. Et je me suis dit, c'est évidemment une histoire que Milkshaker doit recueillir. Alors racontez-nous comment vous avez pu avoir votre enfant. Comment ce désir d'allaitement est arrivé? Est-ce que c'était une évidence que vous alliez mettre en place un allaitement? Qui allaite? Qui allaite pas? Est-ce que tout le monde allaite?
Alors, on a toutes les deux allaité notre bébé pendant 9 mois. Moi, j'ai arrêté quand il avait 9 mois et Catherine continue. Maintenant, ouais. Il a 18 mois. Alors, nous, on est donc un couple de femmes. Pour avoir un bébé quand on est deux femmes en France, c'est pas encore légal. Alors, on a choisi de s'expatrier à Berlin, qui est le pays, donc, qui, Catherine est allemande, donc c'est son pays. On a choisi d'aller à Berlin pour que ce soit légal et qu'on puisse faire un bébé le plus sereinement possible. Et on a choisi que ce serait Catherine qui porterait le premier enfant.
Et du coup, on a pris l'aide d'une clinique où on a fait une insémination avec un bon de sperme.
Et toi, tu voulais allaiter?
Ouais. Moi, j'avais beaucoup envie d'allaiter notre bébé. Et en même temps, on avait des questions. On cherchait en fait comment Mona, autant que maman qui ne porte pas le bébé, peut aussi nourrir notre bébé.
Pour toi, Catherine, c'était un souhait de toujours. Tu t'étais toujours dit que le jour où tu aurais un enfant, tu aurais envie de l'allaiter. C'était quelque chose de complètement normal pour toi ou c'est un souhait qui est arrivé plus tard?
Pour moi, c'était aussi ça, d'être maman, de pouvoir nourrir mon bébé. Je trouvais ça naturel d'allaiter.
Ok. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé que cette première grossesse serait portée par Catherine parce que ce sera aussi plus simple, du coup, de mettre en place l'allaitement ou pas du tout, ça n'a pas joué dans le choix?
Non, on voulait toutes les deux porter le bébé. Ça a été une décision difficile que de choisir qui allait le porter le bébé. Et un jour, moi, je lui ai offert comme une déclaration de dire « mais j'ai envie que tu portes notre premier enfant ». Mais ça a été pour moi une décision difficile. À la fois, c'était magique d'imaginer que la femme que j'aime le plus au monde allait porter le petit être que j'aimerais le plus au monde, mais c'était dur que de pas porter l'enfant. Et c'est aussi pour ça que, au départ, l'idée d'allaiter, d'induire la lactation pour moi est arrivée. C'est parce que je n'arrivais pas à concevoir de pas être pleinement mère au sens de devoir ramener le bébé à Catherine toutes les 2 heures pour qu'il puisse manger. J'arrivais pas à m'imaginer dans cette position-là. Et moi, dans mon imaginaire depuis toujours, voilà, j'allais être maman, j'allais porter le bébé, j'allais accoucher, j'allais donner le sein, et c'était normal. Et là, il fallait déconstruire cet imaginaire-là pour en construire un autre. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu envie d'allaiter. Mais c'est Catherine qui allait à la pêche aux informations d'abord.
Moi, par hasard, au début de la grossesse, j'avais rencontré un couple de femmes qui racontaient qu'ils avaient pris des tisanes et que du coup, la mère non porteuse, elle avait des gouttes de lait, mais voilà. Et j'étais intriguée d'en apprendre plus. Plus tard dans la grossesse, on en parlait avec notre sage-femme qui du coup est allée chercher des infos, qui était là pour nous soutenir direct, qui a dit « oui, c'est possible, on peut allaiter ». Même si on ne porte pas notre enfant, il nous a mis en contact avec une consultante de lactation.
Ok, donc c'est elle qui vous a permis de mettre en place le protocole pour toi, Mona?
C'est elle qui déjà m'a complètement déculpabilisée.
Parce que tu culpabilisais?
Ah oui, complètement. Parce que moi, je suis arrivée là avec cette envie, mais vraiment à demi-mot. J'étais très gênée parce que j'en avais parlé à mon entourage et que tout le monde me disait « non mais pour quelle raison quoi ?» C'est pas naturel. Et moi, je me suis dit naturel, pas naturel, foutu pour foutu. Voilà, déjà, on n'a pas fait un bébé naturellement. Autant aller. Mais bon, j'étais pas sûre de moi, pas du tout. J'étais assez gênée. Donc, quand je suis allée la voir, je lui ai dit j'aimerais bien me renseigner sur la lactation induite. Mais bon, c'est pas sûr que je le fasse. J'étais vraiment.
Comme en s'excusant, quoi.
Comme en m'excusant. Et puis, elle m'a regardée, elle m'a dit mais. Bah oui, tu peux allaiter, si tu veux allaiter, tu vas allaiter, il n'y a aucun problème, c'est vraiment un non-sujet. Et elle a regardé Catherine, elle lui dit, et toi, ça te plairait? Et Catherine...
Moi, j'étais à fond. Pour moi, l'idée...
Ouais, c'était une évidence pour vous deux.
Les deux, ça veut dire que voilà, tout est plus simple, plus facile, plus harmonieux.
Mais tu m'étonnes, 4 seins pour nourrir un bébé, c'est génial quand on y pense.
C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, non mais Mona, ça va être vraiment génial pour le bébé, ça va être génial pour Catherine, et pour toi, ça va être un vrai plus pour créer du lien avec le bébé. Elle voyait pas du tout d'où venaient mes inquiétudes, mes réticences. Elle était là, non mais t'as envie, mais vas-y, tu peux.
C'était finalement le regard des autres qui t'embêtait.
C'est ça, parce que il y avait des gens très proches de moi à qui j'en avais parlé et qui trouvaient ça pas évident et qui m'ont dit, mais non, mais ça, c'est pas vraiment ta place. Là, ta place, c'est de soutenir Catherine dans son rôle d'allaitante. Et moi, je me suis dit, mais si c'est ça ma place, que de... Eh ben, j'ai pas envie. Je suis pas prête. C'est pas comme ça que j'imaginais être maman. J'ai pas envie.
Et quel meilleur soutien que de le faire aussi.
Voilà. Et ça, on l'a pas réalisé tout de suite. Ça, on l'a réalisé que quand le bébé est né, en fait. Que ça allait être vraiment aidant pour Catherine.
Ouais. Donc, du coup, vous partez. À quel mois de la grossesse de Catherine, finalement, vous vous dites, OK, c'est bon, on se met dans cette optique d'allaiter toutes les deux.
Là, on est 5 semaines avant la naissance. 6 semaines avant le terme. Et donc là, il y a plusieurs protocoles qui sont des protocoles qui ont été établis par Jack Newman, qui est un pédiatre canadien qui, spécialiste en allaitement et qui a mis en place ces protocoles. Et il y a des protocoles avec pilules et tout ça, mais qui se commencent bien avant.
Oui, c'est ça. J'allais te le dire parce que j'ai interrogé une maman il y a quelques épisodes qui a mis comme ça des lactations induites en place pour chacun de ses enfants adoptés. L'histoire est incroyable d'ailleurs. Et elle commençait très en amont et il y avait tout un protocole médicamenteux à mettre en place, d'ailleurs pas que avec la sage-femme. Et en fait, c'était très contraignant. Donc, comment ça s'est passé pour vous quand ça commence à 8 mois? Enfin, pour toi du coup, Mona, surtout.
Au départ, quand on décide, donc le jour même, hein, pendant la consultation, de dire « Ok, on se lance », et c'était vraiment un cri du cœur à toutes les deux. Et là, elle m'a dit « Ok, bon bah voilà le protocole, voilà ce qu'il faut faire ». Elle m'a appris à tirer mon lait au départ manuellement avec mes mains et elle m'a envoyé la porte à côté chez la gynéco pour faire un bilan pour voir si c'était OK pour moi de prendre le traitement.
D'accord.
Donc la gynéco fait un bilan et je repars avec une prescription de domperidone. Donc le domperidone, c'est un anti-vomitif voilà, qui a pour effet secondaire allié avec une stimulation des seins de stimuler la prolactine.
Et c'est un médicament qui, d'ailleurs, est aussi souvent utilisé en maternité quand les mamans, ils n'ont pas assez de lait.
Pas un truc sorti du sac d'une sorcière, quoi. Vraiment pas.
Non, voilà. Mais par contre, ouais. C'est vrai que c'est sur prescription, donc on ne part pas tout seul faire une lactation induite, on se fait accompagner.
C'est ça, exactement. Et en plus, c'est une prescription d'une semaine. Et après, on refait le point la semaine d'après. Et chaque fois, elle nous demande est-ce que tout va bien, est-ce que... Tout va bien, tout fonctionne.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme risque, t'as souvenir d'un effet secondaire auquel il fallait faire attention?
Alors elle dit, il n'y en a pas, qu'il y a des études qui montrent qu'il y a eu des arythmies cardiaques chez des personnes de plus de 60 ans, et en plus particulièrement des hommes. Donc elle dit que voilà, à 28 ans, quelqu'un en bonne santé, il n'y avait pas de risque. Et il n'y a pas eu de cas où il y a eu des problèmes. Enfin, on n'a pas connaissance de cas dans l'allaitement induit, il y a eu des problèmes. Mais c'est un médicament qui pourrait éventuellement, chez certains patients, mais dans les études que plus âgées, faire des arythmies cardiaques. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui ont très peur de prendre ce médicament. Par contre, bien sûr, il faut toujours avoir un bilan médical. Hein. On ne fait pas ça chez soi, sa petite popote. Voilà. Et du coup, on part avec cette prescription. Et moi, je suis très excitée, mais à la fois, je suis... toujours pas sûre de moi, de un peu comment je vais en parler, comment je vais le lancer, comment ça va se passer, parce que c'est pas que des médicaments, c'est de pomper son lait toutes les 3 heures. Enfin voilà, Catherine va à la pharmacie toute seule, elle achète les trucs et on commande une pompe. Et le soir même, je prends mon premier petite dose de domperidone et ça commence. Et moi je travaille, donc j'ai amené ma petite pompe, je l'ai amenée mais je l'ai pas utilisée, je l'ai amenée au travail mais... J'étais vraiment pas bien sûre de moi, donc j'ai dû faire ça 1-2 fois aux toilettes vite fait. Mais sinon, j'ai pas vraiment suivi le protocole de toutes les 3 heures. Moi, je me suis pas réveillée la nuit et j'ai très peu fait au travail. Mais 4 jours après, j'avais du lait, mes premières gouttes de lait.
C'était un truc dont tu avais pu parler à tes collègues, mais malgré tout, tu te sentais pas de pumper au boulot.
Alors, j'avais pas de collègues. J'étais à ce moment-là, j'étais gouvernante pour une famille de 5 enfants. Les parents de cette famille étaient hyper soutenants dans tout, mais j'étais quand même gênée, même si c'est des gens extraordinaires qui ont été nos anges gardiens de la naissance, de la grossesse, de tout ça, vraiment. C'est des gens qui ont eu 5 enfants, qui savent tous qu'on a besoin quand on a un enfant, donc ils étaient très soutenants, mais c'était quand même gênant. Donc j'ai très peu fait ça et j'avais aussi pas beaucoup de temps au travail. Enfin, j'allais pas, j'étais pas encore maman, j'allais pas dire oui vraiment, je prends mon temps pour tirer mon lait. Donc on a commencé comme ça encore en marchant un peu sur des œufs quoi, sans trop en parler, sans trop. Et Catherine était à fond. Elle m'a amené de l'eau, elle me préparait des limonades, des smoothies pendant que je pompais mon lait à la
Oui,
maison.
parce qu'il fait quand même de pomper toutes les 3 heures, même si pendant le travail et tout c'était compliqué. Les week-ends, on a quand même essayé de pomper un maximum. Du coup, moi j'ai dit, écoute, pendant que tu pompes, je te fais des massages, je te fais ça.
Ah ouais, donc toi, tu as joué le rôle du parent soutenant avant l'arrivée de bébé, en fait, pour la soutenir dans ce tire-allaitement.
Pour moi, c'était tellement simple d'allaiter. Alors, voilà, je trouvais ça un peu injuste. Ou, tu vois, que pour Mona, c'était un tel effort et je voulais la soutenir à fond.
Voilà, donc c'était génial. J'ai eu plein de massages de pieds, plein de massages
Trop
de mains.
bien.
Elle m'a découpé des brassières pour faire pour que je puisse pomper en m'endormant. Enfin bref. Ça a été super, ça a été une vraie aventure à deux et ça a été vraiment, c'était sympa, ça a été vraiment l'excitation de l'arrivée du bébé, elle est aussi passée par ça.
Et en plus, c'était un peu motivant parce qu'il y avait de plus en plus vraiment du lait.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. À quel moment finalement ça s'enclenche? Tu sors de chez la sage-femme, Catherine elle va chercher le tire-lait, toi tu commences à prendre le médicament et au bout de combien de temps il commence à y avoir du lait?
4 jours.
Les premières
Ah
gouttes.
ouais, ça va hyper
Les
vite.
gouttes.
Les premières gouttes. Mais la première goutte, c'est la plus importante.
Ouais.
La
Ah bah
première
ouais.
goutte, c'est vraiment celle qui vient te dire, c'est en train de marcher, ton corps, il est avec toi. Et la
C'est que le
première goutte,
début, quoi.
on l'a regardée un bon moment, quoi. Et après, très vite, il y avait des biberons, quoi. Enfin, pas des biberons entiers, mais très vite, ça venait. Puis, on l'a pas gardé, ce lait. Moi, j'avais pas envie de garder le lait, parce que je me dis, on a 4 paires de seins, on va l'allaiter, ce bébé. On va le mettre au sein, on n'en veut pas de ce lait. Donc, on n'a
Pas
rien
besoin de
gardé.
stock.
Voilà. Alors après, c'est peut-être bête, mais en fait, non, on n'en a pas eu besoin. De toute façon, il n'a jamais accepté de biberon. Donc...
Ah.
On ne savait pas quoi en faire. On l'a pas gardé. Et voilà. Et ça a été très sympa. Et ça n'a pas duré longtemps parce que finalement, 5 semaines après, le travail commençait.
Donc là, ça y est, ça se l'accouchement se met en route. Toi, t'as du lait. En fait, il y a une lactation qui est déjà en route.
Oui, parce que ce n'est pas une montée de lait quand on induit la lactation. C'est vraiment, c'est progressif. Moi, j'ai jamais eu d'engorgement, j'ai jamais eu de rien. C'est très progressif et donc moi, j'ai laissé engorger de lait quand l'accouchement commence et j'ai décidé quand j'ai fait la valise. Alors c'est moi qui ai fait la valise. J'ai passé 2 semaines à faire la valise.
C'est pas
J'avais
vrai.
de quoi
Elle a
nourrir.
passé 8 mois à faire la valise.
J'avais de quoi nourrir toute la maison de naissance et j'ai décidé de pas prendre mon tire-lait. J'ai décidé d'être là 100% pour Catherine pendant l'accouchement. Je savais
D'accord.
pas que ça allait durer 48 heures. En tout cas, j'ai pas tiré mon lait pendant les 2 jours avant la naissance. On a eu un accouchement très compliqué.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? 48 heures, c'est vachement long.
Le bébé, il s'était pas mis dans une position pour sortir. Il a mis très 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 longtemps pour remettre la tête dans la bonne position. Et après, il a coincé avec son coude.
Il avait le bras autour du cou, mais il faut se remettre dans le contexte qu'on est dans une maison de naissance allemande qui n'est pas du tout reliée à quoi que ce soit de médical. Il n'y a pas de médecin. On est avec 3 sages-femmes extraordinaires qui sont présentes avec nous tout le temps. Par contre, Catherine, elle n'a pas eu un Doliprane, elle n'a rien eu, quoi. Donc là, elle n'a pas perdu les os. Il était prêt à sortir dans sa poche, en fait, le bébé. Et au dernier moment, les os se sont rompus et l'eau était souillée. Donc le bébé était en détresse, c'est-à-dire qu'il avait lâché son méconium dans l'eau. Et là, normalement, on aurait dû partir en césarienne parce que ça, tout allait très mal. Mais Catherine est une déesse de l'accouchement. Hein.
Non, mais du coup, les
Oui.
sages-femmes, ils sont sortis pour décider, pour discuter de comment on continue. Et dans le couloir, il y a une autre sage-femme qui les a croisées, une sage-femme avec beaucoup d'expérience, et qui a dit le plus important maintenant, c'est de sortir le bébé le plus vite possible. Et ça, on peut le faire à l'hôpital, mais on peut aussi le faire ici.
Et donc, expression abdominale. Et donc, 4 heures de poussée de sortie. Catherine, elle a eu 4 heures de poussée de sortie. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait. Normalement, y aurait dû avoir les forceps. Voilà, bref. Il y a eu 4 heures de poussée de sortie. Et il y a eu. Catherine a été très blessée. Et il y a eu quelques complications pour Catherine à la naissance. Mais il y a eu des très graves complications pour le bébé à la naissance.
Mince.
Voilà. Il a eu une tétée d'accueil avec Catherine qu'il n'était pas en mesure de prendre parce qu'il respirait très mal. Et après, tout le monde s'est occupé de Catherine, qui faisait une hémorragie, et moi, J'ai essayé de donner ma tétée à moi au bébé, mais il allait pas bien du tout. Et ensuite, il a été amené en réanimation. Et Catherine, elle n'a pas vu le bébé jusqu'à 20h le soir. Donc, il est né à 15h18. Catherine est arrivée à 20h30 au soin intensif. En fait, il était très malade. Il a eu une très grave pneumonie et une très, très grave septicémie. Et son pronostic vital était engagé.
Ah oui, carrément. D'accord. Voilà.
Donc, à ce moment-là, notre projet de co-allaitement, machin truc, c'était plus du tout une question. C'était Isaïe était en réanimation tout seul, parce que moi, j'étais dans le couloir, Catherine était toute seule en maison de naissance. Ensuite, soins intensifs. Ensuite, on ne le voyait plus de toute façon, il était intubé. Et voilà. Et ensuite, on n'a pas eu le droit de le toucher pendant 24 heures. Donc, il n'y a pas eu tout notre plan d'accouchement naturel et pour le bien-être du bébé, pour que ce soit le plus doux possible. Ça n'a pas marché.
Ok. Donc, du coup, vous récupérez votre bébé qui va un peu mieux. À quel moment?
C'est-à-dire, il a respiré tout seul 24 heures plus tard.
D'accord.
Jusque là, il a été nourri par une sonde
avec on ne sait pas, en fait. Parce que Catherine a été hospitalisée de son côté en gynéco.
Et moi, j'avais quasiment pas de lait au début, quoi. J'étais très, très, très faible.
Elle avait perdu beaucoup de sang. Voilà. Elle a été hospitalisée, mais bon, ils se sont pas occupés d'elle. Et moi, je suis restée avec le bébé en soins intensifs et j'ai pompé toute la nuit. Donc, j'ai fait plein de biberons. Mais le lendemain matin, on est quand même dû me demander, mais à qui ce lait? Parce que c'est vrai que c'était étrange d'avoir du lait. Et derrière notre dos, il y a eu une réunion avec celle qui était responsable de l'allaitement et qui était responsable, la cadre infirmière en fait, qui a pris la décision de ne pas donner mon lait au bébé.
Elle est rentrée dans la chambre, elle a dit à partir de maintenant, ça ne sera plus possible de donner le lait de Mona à notre bébé parce que on ne sait pas qui c'est comme le lait d'un étranger, on ne peut pas donner n'importe quel lait au bébé. Et du coup, moi, je lui ai répondu, comment ça, lait de l'étranger? On est deux mamans, c'est notre bébé et on veut bien que le bébé ait ce lait-là.
Parce que s'il ne lui donnait pas ton lait à toi, Mona, il lui donnait des préparations commerciales pour nourrissons.
Voilà. Donc, ils nous ont demandé, on dit, c'est OK pour les materniser. Et moi, j'ai dit, c'est OK si sa vie est en danger et qu'il a besoin de ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec le lait que j'ai préparé pour lui? J'ai eu du mal à réaliser, en fait, j'étais en train de me faire éjecter du processus de parentalité complètement, en fait. Ça a mis du temps à monter. Et en plus, de toute façon, moi, j'étais dans un état de choc traumatique. Moi, j'ai pleuré pendant 24 heures. J'ai très mal vécu l'accouchement. Et clairement très mal vécu la réanimation. Catherine n'était même pas encore revenue de ses esprits. Catherine n'a pas du tout réalisé que le bébé était malade. Donc, alors que clairement, on ne pouvait pas le toucher, qu'il était branché de partout, qu'il était en grave déprivation d'oxygène, qu'il allait très très mal. Et qu'ils nous ont dit, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas la suite, on ne peut pas vous dire la suite.
Ok, ouais. Donc là, vous êtes en état de choc. L'une est physique et psychologique et l'autre psychologique, quoi.
Et du coup, nous, on n'a rien dit.
On s'inquiétait aussi que si on dit quelque chose, que ça a des conséquences pour notre bébé, qu'il s'en occupe moins bien, voilà.
Et moi aussi, on m'avait déjà dit qu'en fait, en théorie, j'avais pas le droit d'être là, que c'est réservé aux parents. Et moi, ils avaient quand même dit que, ils me considéraient pas comme les parents parce que j'avais aucun droit sur l'enfant au niveau légal. Il faut les adopter, nos bébés. Donc, c'était un climat comme ça, extrêmement tendu. On ne savait pas si le bébé vraiment allait survivre. On ne savait pas comment ça... Voilà. Et donc, moi, je n'ai pas lâché le bébé. Je suis restée à côté tout le temps, presque.
Oui, donc à cet instant-là, tu te dis, mieux vaut qu'il lui donne de la préparation commerciale pour nourrisson et que juste...
On a quand même dit non, finalement. J'ai quand même dit non parce que Catherine n'était pas avec moi à ce moment-là et que je trouvais que c'était une décision qui se prenait à deux. On avait tellement... En fait, on avait assez de lait disponible, j'arrivais pas à comprendre. Et là, ce qui s'est passé, c'est que nos sages-femmes de la maison de naissance, elles ont eu vent de notre situation, qu'on était en train de se faire complètement discriminer, mais nous, on s'en rendait presque pas compte. Et elles se sont battues en interne. Donc, il y a eu plein de coups de fil qui ont été passés à la direction, au service. Elles sont venues me chercher, elles m'ont fait une prise de sang pour prouver que j'avais pas le sida. Donc, elles m'ont fait ça dans un couloir de la maison de naissance. Enfin, vraiment... Et le lendemain, on est venu nous dire « Ok, on donne ce lait. Par contre, on ne veut pas que tu le mettes au sein. » Parce que maintenant, il n'avait plus de sonde. Il n'avait plus de sonde. Donc, Catherine a pu commencer à lui donner son lait à elle. Il a pris. Donc, elles nous ont beaucoup aidés pour le mettre au sein parce qu'Isaïe était complètement sonné. Et après, moi, elles ont dit « Ok, Catherine n'a pas de lait. Donc, toi, on va lui donner ton lait, mais on ne le met pas au sein. C'est le biberon. Parce que deux mamans, c'est beaucoup trop stressant. Il a déjà beaucoup de stress. Il faut qu'il guérisse. » Donc, on lui donne le biberon. Donc, en fait, ils ont pris mon lait Donc je tirais mon lait et il donnait au biberon. Et là, je comprenais pas pourquoi, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi ce bout de plastique dans sa bouche donnait même pas par moi, parce qu'au départ, en fait, elle nous laissait très peu le toucher, en fait. Hein. Si on avait un deuxième enfant, on ferait différemment, mais là.
Non, mais là, tu te laisses porter, t'es choquée de toute façon par ce qui vient de se passer en plus.
C'est ça. Et donc, il prenait mon lait au biberon. Première fois que j'ai eu le droit de le prendre, qu'il s'est mis à respirer pour la... tout seul. Et qui s'est mais était vraiment apaisée. Donc je me suis dit, c'est bizarre qu'elle se dise que moi, je cause du stress au bébé, parce que...
Qu'est-ce que t'as eu l'impression qu'il y avait en fond, finalement ? T'as l'impression que... qu'est-ce qui se jouait
Ah, il y avait de l'homophobie très grave de la part de cette dame, cette chef de service. Il y avait un désaccord dans l'équipe, parce qu'il y avait une autre consultante en lactation qui, elle, était à fond avec nous, mais qui travaillait pas à ce moment-là, donc... qui nous a aidés, et il y avait aussi un désaccord de la part de la pédiatre, mais qui elle a rien dit, c'était une jeune interne pédiatre qui s'est occupée d'Isaïe et qui a organisé un peu notre changement de service. Donc 4 jours plus tard, on a changé de service, et là on avait le droit de rester toutes les deux avec lui, et là il n'y avait plus personne pour nous embêter. Mais c'était la personne qui était visiblement très homophobe qui
mettait des bâtons dans les roues, finalement.
Voilà. Et elle n'était pas que homophobe, parce qu'à un moment donné, il y avait une petite fille qui avait fait un dessin avec le prénom Isaïe et puis plein d'étoiles. Et elle commence à me parler, puis elle se rend compte que je suis française. Elle me dit « Ah bon ? Mais vous n'êtes pas juive ? Mais ça va alors ?» Et là, moi, dans ma tête, je me dis « Mais attends, mais la fille, elle est antisémite et homophobe, mais c'est encore plus grave que ce que j'imaginais, quoi. » Donc, je n'ai pas répondu à ça, évidemment. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'animosité de la part de cette personne qui, malheureusement, avait un pouvoir de décision par rapport à toute l'équipe vis-à-vis de nous. Ouais. Et ça, par contre, c'était la minorité. Certes, elle avait un pouvoir de décision, mais il y a eu plein de gens qui ont été super avec nous.
Il y a, par exemple, une consultante de lactation qui est venue nous voir juste avant qu'on a changé de service, qui nous a vraiment donné de la force pour que nous... on se sente parents, et on se sente parents aussi en disant que c'est nous, en fait, qui décidons ce qu'on a envie de donner à notre bébé. Elle nous a dit, si vous avez envie d'allaiter votre bébé, c'est votre bébé, c'est votre décision, est-ce qu'il mange comme lait.
Bien sûr.
Mais voilà, c'était un peu tard, quoi.
Ouais, donc du coup, vous passez 4 jours dans ce service avec une personne qui, bon, bah voilà, malheureusement, vous met des bâtons dans les roues. Et une fois que vous... Donc là, pendant 4 jours, Isaïe prend ton lait à toi, Mona, dans des biberons, c'est ça ? Le temps que ta lactation à toi, Catherine, puisse se mettre en place. Et j'imagine que ça a été un petit peu lent au démarrage, vu les événements juste après l'accouchement.
Les premiers jours, j'avais aussi pompé parce qu'Isaïe n'était pas encore en mesure de prendre le sein. Et j'avais très, très peu, disons même pas de lait. Et une fois qu'il s'était mis à téter, je ne sais pas combien de lait j'avais. Et,
voilà. Tout allait bien après, on pesait le bébé... Après, on était en pédiatrie. Alors, du coup, là, c'était difficile parce qu'il était toujours appareillé pour mesurer son taux d'oxygène qui faisait des chutes permanentes. Sauf qu'il n'était plus relié à l'ordinateur du bureau puisqu'il n'était plus en soins intensifs. Donc là, ça a été compliqué parce qu'il sonnait en permanence et on était livrés à nous-mêmes. Il fallait appeler quelqu'un. Sauf que toute la nuit, en fait, personne venait. Il faisait des chutes, mais même à 80. Enfin, c'était très, très, très anxiogène, cette situation. On ne retournera plus jamais dans cet hôpital.
Oui, donc pas l'idéal pour un démarrage de lactation. Hein. Quand il y a autant de stress, un bébé qui ne tète pas au sein...
Mais... En même temps, c'était un peu la liberté qu'on avait gagnée parce qu'on avait notre petit espace à nous. Avant, dans l'autre service, moi, j'étais dans une chambre, Isaïe était dans une chambre et Mona, elle était dans une chambre. Et là, on était tous ensemble dans un espace minuscule et...
Ils étaient vivants, on était ensemble... plus rien ne pouvait nous atteindre, en fait. C'était vraiment... c'était très anxiogène, mais ça allait. Et moi, j'ai pu mettre Isaïe au sein pour la première fois à ce moment-là, caché dans le service. Alors, Catherine, elle guettait un peu, voir s'il n'y avait pas des infirmières... C'était ridicule, hein. Voir s'il n'y avait pas des infirmières qui arrivaient, voilà. Et j'ai fait mon premier pot à pot, parce qu'avant, en soins intensifs, elles avaient dit non. Elles avaient dit ça, c'est que pour les mamans. Et donc, j'ai fait mon premier pot à pot avec mon fils. Et lui, il a pris ça, mais vraiment comme... tout naturellement, il s'est endormi, il était bien, il nous montrait qu'il était bien avec nous. Donc là, en fait, on le laissait plus dans la couveuse. On était toutes seules, livrées à nous-mêmes, on faisait ce qu'on voulait. Il était sur nous en permanence. Et voilà, c'était le début quand même de la liberté, même si après, il y a eu d'autres problèmes. Il a convulsé, enfin bon. Mais c'était notre cocon à trois qui démarrait quand même.
Donc Catherine, toi, à ce moment-là, t'as pompé combien de temps avant de pouvoir le mettre au sein ?
Pompé encore, mais on essayait, on faisait un peu n'importe quoi. On le mettait au sein, on pompait, on essayait. Parce que normalement, il y a un protocole après la naissance pour le co-allaitement. C'est-à-dire que quand l'une donne, l'autre doit pomper. Donc on a fait D'accord. ça un peu au début, mais en fait, finalement, on a très vite lâché. On s'est très vite dit, mais en fait, ça marche. Catherine, sa montée de lait est arrivée, ça allait à peu près au niveau du lait. Et on a lâché, en fait, tous les protocoles. On a fait comme on voulait, donc c'était à qui avait le sein plein. On n'a plus jamais tiré après ça. Donc on a
D'accord,
fait les premiers jours, mais après on n'a plus jamais fait.
Ok, donc là dès que vous arrivez en pédiatrie et que vous êtes à peu près tranquille et que vous êtes tous ensemble, c'est parti pour de l'allaitement exclusif au sein.
Voilà.
Est-ce que ça a été facile pour Isaïe de prendre le sein ? Est-ce que ça a été une évidence ou est-ce qu'il y a eu des difficultés au démarrage, des douleurs pour l'une ou l'autre ou les deux ?
Ben non, démarrage avec Catherine, oui, ça a été difficile, mais ça, c'était encore en soins intensifs. Arrivé en pédiatrie, quand il prenait bien avec Catherine, il a très bien pris avec moi. Et il n'y a plus eu aucun problème au niveau de l'allaitement.
Qu'est-ce qui était difficile au démarrage ? C'est qu'il n'était pas bien, il était encore très fatigué, il avait du mal à s'accrocher.
Ils lui ont donné un peu de sucre pour qu'il comprenne. Enfin, ils ont essayé de lui faire comprendre comment ça marchait de téter. Voilà, mais ça a pris quoi ? Trois quarts d'heure et après, c'était bon. Ouais. Et là, on était avec la géniale, avec la consultante en lactation qui était à fond avec nous. Donc, c'était un plaisir. Même si ça ne marchait pas, ce moment-là, c'était quand même la fin de la sonde. Voilà. Et après, moi, il a pris tout de suite. Et après, il n'a plus jamais... Et il n'a jamais fait de différence. Il était content avec n'importe quel sein.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait des choses différentes entre un allaitement et l'autre ? Enfin, en fait, c'est le même allaitement, mais d'une personne à l'autre, d'un sein à l'autre.
Ben pour toi, c'était beaucoup plus rapide que pour moi. Catherine, elle faisait tétée de 15 minutes.
C'est vrai. Mes tétées, c'était plus court. Je pense que mon lait écoulait plus vite.
Il s'étouffait un peu au début même.
Ouais.
Et moi, c'était des tétées très longues. Moi, j'allaitais pendant une heure. Voilà. Et à la fin, il était rassasié pareil, mais c'était pas le même fonctionnement. Et lui, ça lui allait très bien.
Lui, est-ce que c'était peut-être lié au fait que, tu sais, bah, toi, comme tu le disais tout à l'heure, Catherine, avec la lactation induite, ça se met en place vraiment tranquillement par palier. Et sur une lactation après grossesse, il y a un moment, il y a une montée de lait, en fait, où les seins sont vraiment gorgés. Est-ce que c'était dans cette période-là, du coup, que ça allait vite parce que ça coulait vite et qu'après, ça s'est calmé ou c'est un rythme qui est resté après et que ça a toujours été plus vite de ton côté, Catherine ?
J'avais toujours beaucoup de lait, en fait, Il tète pas longtemps. Il tète 10 minutes et après, il est bien.
Et moi, c'était toujours des longues tétées.
Ouais.
Non, c'était comme D'accord. ça. Et ça nous allait bien, en fait. Mais du coup, on a eu un enfant qui, dès qu'on est rentré à la maison, donc 9 jours après. 8 jours après. Ouais. Dès qu'on est rentré à la maison, on a eu un enfant qui était extrêmement satisfait, quoi. Donc, il était très souvent au sein de l'une ou l'autre. Mais il a quasiment plus jamais pleuré.
Et il a sûrement jamais pleuré de faim. Il avait toujours assez de lait.
Jamais pleuré parce qu'il avait faim, ça c'est sûr.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Sûr, il était très, très apaisé. Très, très apaisé.
Est-ce que vous aviez défini, je sais pas, une sorte de rythme à tenir entre l'une et l'autre pour que ce soit à peu près égal, pour que les lactations s'entretiennent ou juste parce que c'était un souhait que ce soit complètement égalitaire ou non, juste vous vous êtes laissé porter, toi t'es là, après c'est ton tour, enfin, comment vous avez fait ?
Alors, déjà la nuit, on s'était partagé la nuit, ça veut dire que Mouna elle faisait la première partie, moi j'ai pu dormir et après moi j'ai fait la deuxième et on a fait l'inverse. Ça, c'était génial parce que ça nous a permis à l'une et à l'autre de quand même dormir un peu. Et après la journée...
Et la journée, on faisait vraiment à qui avait du lait, à qui en avait envie, à qui était prête. Et on n'a suivi aucun rythme, on n'a rien calculé. C'était le plus naturel qu'il soit. C'était vraiment simple et sympa.
Ok, et alors du coup, bah, on s'en doute, mais c'était quoi le principal avantage à être deux, à pouvoir nourrir un bébé?
C'est que l'une et l'autre, si on avait besoin de faire des courses, on a pu sortir sans qu'on s'était inquiété si le bébé va se réveiller, elle va avoir faim, parce qu'on savait, oui, qu'il y a du lait à la maison.
Mais c'était même pas ça. À la base, on n'est pas sorti faire des courses. À la base,
oui, c'est vrai.
À la base, Catherine, en fait, Catherine a eu des grosses complications postpartum.
Et Catherine, du coup... elle était sur son camp du canapé, en fait, pendant, pendant bien 6 semaines.
Voilà, elle ne pouvait pas se lever pendant 6 semaines.
Ah ouais, quand même, 6 semaines, c'est hyper long. Ouais, donc là, t'étais alitée.
Et moi, ça, je pouvais la laisser dormir, je pouvais nourrir le bébé, je pouvais... Et puis Catherine, elle pouvait récupérer. On n'a pas eu des grosses crevasses énormes tout de suite. C'était... En fait, on s'est dit que si moi, j'avais pas allaité, personne n'aurait pu allaiter. Dans la situation dans laquelle on était.
Ouais, ça a permis en fait d'avoir un allaitement tout court parce que toi Catherine, t'étais pas du tout en forme et toi non. Toute seule, ça aurait pas été jouable.
Ouais, pas du tout. Parce que moi, j'avais pas la force de l'allaiter tout seul parce que j'étais très affaiblie encore bien après la naissance.
Donc finalement, heureusement que vous aviez mis ce protocole en place.
Ah mais heureusement. Heureusement.
Ce truc qui devait s'avérer être un bonus et une façon pour toi d'être... en entier dans cette parentalité, dans cette maternité plutôt, en fait, c'est devenu indispensable.
C'est devenu indispensable. Et en fait, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que, à la base, l'allaitement induit, je pensais que c'était pour moi, que c'était un besoin égoïste pour trouver ma place en tant que mère, parce que j'avais des inquiétudes par rapport à ça. Et en fait, ça s'est avéré que ça a été vraiment le game changer dans notre vie, parce que on avait besoin de pouvoir se relayer, mais à 100%. Avec ce bébé pour que ça aille bien. Et c'est grâce à ça qu'on a eu le moral, qu'on n'a pas... Isaïe a encore fait des convulsions pendant un mois, c'était quand même inquiétant. Voilà, on avait besoin de pouvoir être une équipe à 100%.
Au bout de combien de temps tout le monde a été mieux?
Un mois.
Parce que c'est long,
un mois. Un mois. Deuxième hospitalisation, il avait un mois. Et quand on est sorti de l'hôpital... Non, Catherine, 6 semaines. Isaïe, il s'était réglé en un mois et Catherine en 6 semaines. C'est ça?
Ouais, ouais. On avait...
Toutes ces complications, elles étaient liées à l'accouchement en lui-même?
Oui, oui. Moi, j'avais une énorme blessure qui a fait que pendant longtemps, je n'ai pas pu m'asseoir, je n'ai pas pu marcher, j'étais allongée.
Et puis, tu avais perdu beaucoup de sang et tu n'as pas été transfusée. Et puis, Enfin, voilà. Et par contre, en Allemagne, il y a un système où il y a une sage-femme qui peut venir chez toi tous les jours.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que vous n'êtes pas en France et c'est vrai que les choses sont faites différemment dans ces pays et l'accompagnement est quand même meilleur, il me semble, en postpartum.
Ben là, raconte Kerstin, ce qui a sauvé... En fait, cette sage-femme, elle a sauvé notre postpartum. Elle en a fait, en fait, 6 semaines de joie malgré tout ce qui nous arrivait. C'était 6 semaines qui se sont été géniales, mais grâce à elle.
Elle est venue au début tous les jours et après tous les 2 jours... Et elle s'était installée là, chez nous. Elle nous a parlé, comment ça va. Elle a trouvé les bonnes questions pour vraiment comprendre comment on va. Et elle a D'accord. pris tout le temps du monde pour voir comment elle va le bébé, Mona, moi.
On sait même pas ce qu'elle a fait en fait. Juste, elle était là. Et puis, elle était payée 20 minutes, mais elle était là 2 heures. Et elle nous a vraiment... Elle a réussi à nous faire verbaliser... tout le traumatisme qu'on avait toutes les deux pendant l'accouchement, sans qu'on s'en rende compte. Mais quand elle était là, tout allait bien, quoi. Et puis, tant qu'elle était là, moi, j'avais de l'espoir que Catherine, elle allait mieux, j'avais de l'espoir qu'Isaïe, ça allait aller mieux. Et elle était là. Et d'ailleurs, elle est toujours là. C'est-à-dire, maintenant, on habite en France, mais dès qu'on a un problème, on lui envoie un message, elle répond tout de suite. Elle est là, quoi. C'est un peu une... Et puis, il y avait, du coup, moi, mes patrons, la famille pour qui je travaillais, qui étaient là, qui nous ont amenés à manger, qui nous déposaient des petits déjeuners, qui étaient très présents émotionnellement avec nous. On a eu notre petit village qui a tout changé, en fait.
Ok. Ouais, et ça, ce village, il est hyper important, autour de l'allaitement aussi, pour le maintenir, parce que j'imagine que pour toi, même si physiquement, t'allais bien, cette situation avec un bébé qui a encore des problèmes, Catherine qui était alitée... Voilà, c'est pas non plus l'idéal. Finalement, ça a dû beaucoup reposer sur toi.
Moi, j'étais très, très inquiète tout le temps de ce qui allait nous arriver, en fait. J'en revenais pas. Je pensais vraiment que tout irait, mais bien. J'étais pas prête. Pourtant, moi, pour Catherine, qui voulait un accouchement 100% naturel, j'ai fait une formation de doula pour elle.
Donc moi, je faisais ma formation doula, j'étais très informée, mais j'étais pas prête au choc émotionnel que ça pourrait être. Et que ça pouvait être. Et du coup, moi, j'étais très inquiète pour Catherine, qui en plus avait pas envie d'aller voir des médecins. Enfin, c'était très pesant. Et puis, à un moment donné, tout allait mieux, quoi. 6 semaines.
Est-ce que, quand dans ces moments pesants, la question de laisser tomber l'allaitement s'est posée ou pas du tout ?
Pas du tout, parce que c'était le truc qui marchait bien, qui ne pose pas de... Moi encore, ça me semble plus compliqué d'aller chauffer du lait pour faire des biberons que de mettre le bébé au sein.
Ouais. Ouais, c'était le point d'ancrage, le truc qui fonctionnait.
Ouais, ça marchait hyper bien. Et du coup, moi, à 6 semaines, on a décidé... Alors, Catherine, elle ne pouvait toujours pas s'asseoir, mais on a pris l'avion, on est allé voir ma famille en France. Et moi, j'avais tout annulé, et ça a été vraiment la décision de Catherine de dire « Non, mais on y va, là, j'ai besoin de... » En fait, on avait besoin de présenter ce bébé dans la joie, parce que Isaïe, il est né, personne n'a crié de joie, quoi. Tout le monde était extrêmement inquiet. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il va pas vivre? Et ça a été très dur pour moi que ce moment, il n'ait pas existé. Ce moment d'accueillir l'enfant dans toute une famille, dans le bonheur. C'est le premier enfant partout. Hein. C'est le premier enfant de cette génération, de tous nos côtés. Et voilà. Et donc, on a pris l'avion et on est allé en France. On a fait une surprise. Et à partir, en fait, de ce moment-là, tout allait mieux, quoi.
De changer l'environnement, de voir la joie de la famille, d'être entourée par...
Isaïe n'a pas pleuré pendant une semaine entière quand on était en France. Et c'était vraiment trop bien de repartir sur ces bases-là. Sur ça y est, il est présenté, il fait partie de cette famille-là, il va bien, Catherine va mieux, on commence, quoi.
C'était une deuxième naissance.
Ouais. Et bah après, moi, je reprenais le travail, par contre. On est éducatrice, mais là, moi, en Allemagne, j'étais gouvernante pour une famille de 5 enfants et Catherine est éduque en crèche. Moi, je reprends le travail quand il a 6 ou 7 semaines, ouais. Déjà, normalement, j'avais que 11 jours de congé. Mais la famille pour qui je travaillais a dit non, mais de toute façon, je ne pouvais pas revenir. C'était impossible de laisser Catherine toute seule, là, elle ne pouvait pas se lever, quoi. Donc, à 7 semaines ou 6 semaines, j'ai repris le travail. Et Catherine, en fait, venait à mon travail, passait des heures, là. Moi, je pouvais l'allaiter, du coup. Et Catherine est restée, là, sur le canapé. Et on était beaucoup ensemble, quand même.
Vous êtes juste déportée de maison.
Ouais, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Il y avait un bébé aussi à mon travail qui, ce petit bébé, est tombé en amour pour Isaïe. C'était beau, tout marchait bien. Et là, mes patrons ont été, je dis mes patrons, ça, c'est des amis maintenant, hein, mais ont été très soutenants là-dedans pour que Catherine soit pas seule à la maison, pour qu'Isaïe puisse continuer à l'aider. Ça s'est bien passé. C'était fatigant pour moi parce que je travaillais beaucoup, mais ça s'est bien passé.
Ce qui était intelligent de leur part, puisque de toute façon, toi, tu avais profondément besoin d'être auprès d'eux. Il valait mieux que tu sois là une partie du temps. Enfin, finalement, ça arrangeait tout le monde si vous pouviez être et ensemble, et toi qui travailles.
Ouais. Et ils étaient remplis d'amour, en fait, pour nous. Et ils ont souffert avec nous quand on n'allait pas bien non plus. C'était sympa. C'était vraiment...
Ouais. C'était un peu des anges gardiens de ce postpartum.
Ah, oui. Elle était là quand Isaïe est né et qu'il est arrivé en soins intensifs. Elle était là, elle est rentrée en pleine nuit dans le service de néonat sans que personne la voie et elle m'attendait avec le panier de nourriture, des habits, des sous-vêtements parce qu'à la maison de naissance, on aurait dû rentrer dans la nuit à la maison. On n'avait pas du tout prévu de rester, on n'avait pas de valise pour la maternité en chambre.
Et ouais.
Et elle a tout préparé, elle était là et c'était hyper important pour moi. Qui j'ai des bras dans lesquels tomber à ce moment-là. Puis elle était là 10 minutes. Elle a trouvé une façon d'être là sans être intrusive.
Juste être ce soutien qui te permet de continuer de rester debout et d'avancer. Voilà. À quel moment, toi, Catherine, donc, tu vas mieux et vous pouvez, tu vois, toi, être avec Isaïe et Mona aller au travail sans vous. À quel moment tout ça se stabilise vraiment?
Ça a commencé les vacances qu'on avait fait en France. Et où on était entouré par de la famille et ça commençait doucement à aller mieux et ça m'a donné l'espoir que à la fin ça irait mieux parce que moi je m'étais inquiétée que ça irait jamais mieux comme ça a pris tellement de temps et comme il y avait personne autour de moi qui souffrait autant encore beaucoup de semaines après et quand j'ai vu qu'il y a une évolution et que ça va aller mieux, ça m'a donné l'espoir que Et oui, je vais guérir, je vais pouvoir marcher sans avoir mal. Et au bout de ce moment-là, ça allait doucement mieux.
Après, quand Isaïe a 3 mois, on est parti au Népal. Parce que du coup, on a une maison d'enfants au Népal. Donc à 3 mois, on est parti au Népal. Et là, on était tout le temps ensemble. Avec tous nos enfants de la maison d'enfants. Voilà. Et il y a le confinement. On était bloqués au Népal pendant 4 mois. Donc après, là, on était ensemble.
Ok, d'accord. Oui, donc finalement, il n'y a pas eu vraiment de moment où vous avez été séparés et que Catherine a eu à faire les journées seules, etc. Vous avez été réunis à peu près tout le temps. Mmh. Et alors, donc maintenant, tout est en place. Catherine va mieux, Mona va bien. Les deux allaitements roulent et le bébé se nourrit super bien. Qu'est-ce qui peut se passer pour cet allaitement dans les mois qui suivent? Toi, Mona, tu nous disais que tu as arrêté de l'allaiter à 9 mois.
Ouais, bah moi, j'ai eu... C'est ça. Ouais, j'ai eu une opération en urgence. J'ai eu une infection de la vésicule biliaire, donc j'étais hospitalisée pendant une semaine quand il avait 9 mois. J'étais beaucoup trop faible pour maintenir ma lactation, c'est-à-dire j'aurais dû pomper parce que je ne pouvais pas allaiter. Je n'ai pas pompé parce que je n'étais pas en état. C'est une opération qui s'est très mal passée, du coup j'ai été hospitalisée. Bref, pendant une semaine, j'étais complètement « out ». Et du coup, quand je suis sortie de là, j'avais plus de lait. Et du coup, Isaïe, j'aurais pu essayer de reconstruire ma lactation, mais il avait 9 mois, il mangeait, j'en ai pas eu le courage. Isaïe était plus intéressé. Et là, quelques mois plus tard, Isaïe a commencé à me redemander. Donc maintenant, il fait des tétés de confort la nuit, parce que Catherine n'aime plus allaiter la nuit. Du coup, il vient me réveiller moi et il me dit « Maman !» Et du coup, moi, je refais des tétés de confort et je recommence à avoir quelques gouttes de lait, mais rien de plus. C'est vraiment juste...
De la tétée de réconfort.
Et Catherine
c'est génial votre truc. Enfin, il y en a une qui veut plus allaiter la nuit, l'autre oui, ok, bah fine. Du coup, il passe à l'autre, mais c'est génial. C'est l'allaitement, mais version... S'il n'y avait pas eu ces démarrages aussi difficiles, parce que je n'ose pas imaginer à quel point ça a pu être compliqué à tout niveau, ce postpartum immédiat. Mais sinon, c'est le rêve, quoi.
Ah, nous, c'était le rêve.
Ce bébé qui peut téter comme il veut, quand il veut, avec qui il veut.
Et on a eu un bébé hyper satisfait, qui était hyper content avec tout le monde. On a passé énormément de temps avec lui grâce au confinement en Népal. C'était vraiment une année extraordinaire, quoi. Ah. Et puis, bon, là, Catherine, soit tu l'allaites encore.
Moi, je l'allaite encore ce matin et soir, et peut-être des fois dans la journée, mais je continue. Hein.
Et Isaïe, de toute façon, ne mettra jamais du lait de vache dans sa bouche. Hein. Il a vraiment, il comprend pas le principe, quoi.
Ouais, oui, c'est ce que tu disais. Il a jamais voulu prendre de biberon. Vous avez essayé parce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de passer sur du mixte et de faire autrement ou qu'est-ce qui s'est passé avec le biberon?
Non, mais on a très peu essayé le biberon, mais c'est juste que Quand est-ce qu'on a essayé le biberon? En fait, on a essayé à plusieurs reprises. Même là, moi, c'est moi qui suis à la maison maintenant. Catherine a fait 1 an de congé parental et moi, maintenant, je suis en congé parental depuis qu'il a 1 an. De temps en temps, j'essaye de lui donner du lait au biberon. Mais en fait, il croit que c'est des antibiotiques. Il prend comme si c'était un médicament très dur à passer et après, il s'applaudit, quoi. Il déteste ça. Donc on a arrêté. On a vraiment... Voilà. Il veut pas le biberon.
Oui, je me rappelle. En fait, c'était parce que tu avais... essayer si ça le reconforte quand il voulait le sein parce que j'étais pas là.
Ah oui, voilà, quand Catherine a retrouvé... Oui, c'est ça. Catherine a repris le travail et moi, j'allaitais plus à ce moment-là et il voulait plus, pas encore de tétée de réconfort. Et du coup, j'ai essayé le biberon pour essayer de... Alors, avec le lait, ça n'a jamais marché. Avec du jus d'orange, il a pris. Mais moi, j'avais pas non plus envie qu'il se fasse des biberons de jus d'orange. Voilà. Donc juste, voilà, il prend pas de biberon, il prend pas de tétine et tout va bien, en fait. Ouais. Tout va bien.
Ok. On a parlé au démarrage de l'entourage qui était un peu réticent face à cette expérience. Comment ça a évolué après? Une fois que tout ça était en place, qu'ils vous ont vu heureuses là-dedans, heureux tous les trois, et que finalement, enfin, ça a l'air d'une simplicité sans nom quand on vous en entend parler, encore une fois passé ce postpartum compliqué. Alors, est-ce que leur regard, il a changé autour de tout ça? Qu'est-ce qui s'est
passé? Ah oui, tout de suite. Tout de suite, tout d'un coup, tout le monde trouvait ça génial. Ah mais vraiment, on n'a plus eu aucun problème après. Mais tout de suite, les gens étaient fascinés, trouvaient ça extraordinaire. On n'a plus du tout eu de reproches.
Toi, ça t'a fait du bien, Mona?
Ben, disons que du moment où j'ai commencé à allaiter, je prenais le choix de ne pas m'en faire du regard des autres. Oui, ça m'a fait du bien, mais c'était plus un sujet. On était bien ensemble.
C'était déjà rangé de ton côté. Voilà.
Et après, ça nous amusait un peu d'allaiter Isaïe, par exemple, dans un café et de passer un à l'autre parce qu'on a vu que les autres, ils ont regardé un peu. Et des fois, les gens, ils nous posent la question, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, on fait un peu d'éducatif sur le sujet.
Là, vous êtes rentrée en France depuis combien de temps?
Depuis novembre.
Quand il a eu un an.
Depuis novembre. Ok. Quand vous disiez dans les cafés, on le faisait passer d'un sein à l'autre, est-ce qu'en Allemagne, la vision de l'allaitement, elle est différente qu'en France?
Moi, en Allemagne, je me sentais beaucoup plus à l'aise d'allaiter en public. En Berlin, je trouvais que ça choque personne, que c'est normal. On voit les mères allaiter dans les cafés ou dans les parcs. Et ici, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de regard. Peut-être c'est lié aussi au fait qu'ils aillent les plus grands maintenant.
Mais en fait, il y a quand même un truc simple, c'est qu'en Allemagne, le congé maternité pour tout le monde, il est d'un an. Donc c'est très normal pour plein de mamans d'allaiter pendant un an, qui choisissent d'allaiter. Alors qu'ici, les femmes doivent retourner au travail beaucoup plus vite. Et donc c'est beaucoup plus dur que de maintenir un allaitement au-delà des 3-4 mois. Du coup, de fait, c'est rare de voir en public un grand bébé être allaité. Mais toi, Catherine, en même temps, tu t'en fous, tu allaites partout.
Ouais.
Voilà, nous, on s'en fout. Enfin, en même temps, on est toujours ensemble. Je pense pas qu'il soit possible qu'on se fasse agresser pour l'allaitement.
Non, non, je vous le souhaite pas. Et puis, voilà, moi, je suis persuadée, et c'est un peu l'objet de Milchaker aussi, mais c'est que plus on en voit, plus ça devient normal dans la tête des gens, parce que c'est avec la récurrence de cette prise de conscience qu'à un moment, le prisme change. Oui. Donc, non, c'est allaiter partout, tout le temps, c'est militant aussi.
C'est ça. Et puis en plus, on n'a pas fini. En fait, on n'a jamais eu de plan de combien de temps il sera allaité. Bah, maintenant, c'est surtout entre les mains de Catherine et Isaïe.
Ouais.
Mais on n'a pas de... On verra, quoi.
Ouais. Il n'y a pas d'objectif final.
Non, pour l'instant, ça nous va. Et si un jour, ça ne nous va plus comme ça, on verra.
Ok. Si jamais un jour, il y a un deuxième bébé qui arrive dans votre vie, alors c'est quoi le plan cette fois? Vous inversez la machine et c'est toi, Mona, qui porte et vous refaites cette lactation induite, vous savez?
Bah, lactation induite, c'est sûr.
C'est sûr que ça sera les deux qui vont allaiter le deuxième bébé.
Et si c'est moi qui porte le bébé, ce sera beaucoup plus simple pour Catherine parce que ce sera une relactation. Donc, elle n'aura même pas forcément de besoin de ça. Après, la question ou non du deuxième enfant... C'est une question très compliquée à laquelle on ne peut pas encore répondre puisque nous, on ne veut pas faire de bébé clandestinement à aller à l'étranger. On admire beaucoup ces familles qui font ces périples à aller faire des bébés en Espagne, au Portugal. Nous, on est rentrés en France aussi parce qu'on pensait que ça y est, la loi, elle allait passer, mais elle n'est pas passée, quoi. Et donc, pour l'instant, on est très bien à trois. On a toujours envie de dire, tiens, est-ce qu'on on aura un jour un petit frère ou une petite soeur pour Isaïe? Mais on ne sait pas trop comment on va faire, mais voilà. Mais si bébé il y aura 2 paires de seins, ça c'est sûr.
C'est sûr. Trop pratique. Ouais. On ne change pas une équipe.
Voilà.
Ok. Est-ce que cette expérience d'allaitement, pour vous deux, elle a eu un impact dans vos vies perso et pro? Est-ce que ça a fait changer des choses? Est-ce que ça a fait bouger des lignes?
Juste un truc, c'est qu'on en parle quand même beaucoup. Et dans notre entourage ou à mes collègues du travail et on partage ce savoir parce qu'il y a aussi beaucoup de couples, de femmes qui sont dans la même situation que nous, qui savent même pas que c'est possible. Et on a envie d'en parler d'un maximum pour permettre aux autres aussi de vivre une aventure comme ça.
Après, personnellement, ça nous a peut-être amené à affirmer nos choix et à les faire vivre nos choix en tant que parents. C'est-à-dire que voilà, d'assumer nos choix en tant que parents tout le temps. Et c'est vrai que ça, c'est tellement extrême dans la vision des gens que d'allaiter à deux son enfant que peut-être que quand on en est là, bah plus rien ne nous fait peur dans les choix qu'on fait en tant que parents. Et que après, ça a été très important parce que nous, quand on était au Népal quand il a eu 3 mois, pendant 4 mois, tous les magasins ont fermé. Si on n'avait pas allaité, on a eu des problèmes vraiment pour trouver du lait pour le bébé. Ouais. Et on n'avait pas de couche du coup pendant 4 mois, mais pas de couche, ok, mais pas de lait, ça aurait été quand même différent. Donc on se serait retrouvé avec du lait de vache, de la vache du voisin, ça aurait été compliqué. Donc ça a eu un impact énorme que de pouvoir allaiter à 4 à ce moment-là, ça a été bien.
À 400.
Ouais, 4. À 400. À 2.
On a trouvé 2 copines qu'on a embarquées dans l'aventure. Il nous restait 2-3 cachettes dans le carré. Ok, vous donneriez quoi comme conseil à deux mamans comme vous finalement qui nous écoutent alors et qui se posent la question?
Nous, on dit oser,
Osez.
Faites-le. N'ayez pas peur de du regard des autres ou de faites puis, votre expérience à vous.
Ouais, et puis arriver avec un petit livret d'informations à l'intention de l'équipe de la maternité pour pas vivre la même chose que nous.
Ouais.
Mais vraiment faites comme vous voulez et ne vous faites pas de soucis quoi.
Vous diriez que ça a été facile à mettre en place ?
Là, ça a été super facile. Ça a été très
difficile. C'était un effort. Mais
Un effort pour qui ? Pour moi ?
De pomper.
Oui, oui, c'était un effort pendant 5 semaines, mais qui était un effort finalement assez plaisant parce que c'était très excitant. Ça a été facile. Moi, je trouve que ça a été facile, que ça a été assez fluide.
Ok. Est-ce que il y aurait quelque chose que vous voudriez me dire et que je vous aurais pas demandé, un truc qui vous vient à l'esprit avant l'interview Fast Milk ?
Ah oui, absolument. C'est qu'il y a une légende urbaine au sujet de l'allaitement induit, que c'est possible de faire ça juste en mettant le bébé au sein ou en prenant une tisane de fenugreek. Il se trouve que ça ne marche pas. Et moi, j'ai rencontré plein de gens sur des forums qui ont du coup été mis en échec par rapport à leur projet d'allaitement induit, alors que c'est quand même, c'est facile, d'accord, mais c'est quand même un process, vraiment, c'est un engagement. Parce qu'elles ont suivi des mauvais conseils. Et du coup, c'est très important pour moi que les femmes sachent, ou les femmes, ou oui, que les femmes sachent que il y a des protocoles à suivre pour que ça marche. Il faut pas attendre la naissance. D'accord. Par contre, si on veut allaiter alors que l'enfant est déjà né, mettons, on a un enfant prématuré et on n'a pas encore lancé, c'est possible aussi. Mais il faut suivre les protocoles. Et donc, il faut se faire aider par des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et c'est pas vrai que juste en aimant son enfant avec la montée d'oxytocine, on pourra allaiter. C'est pas vrai qu'en buvant de la tisane, on pourra allaiter. Et c'est pas vrai qu'en mettant son bébé au sein, on pourra allaiter. On aura 3 gouttes de colostrum et c'est tout. Et en fait, moi, c'est pour ça que je témoigne. C'est pour que les gens qui se lancent se retrouvent pas en échec à cause de mauvais conseils.
Oui, comme plus généralement, les gens qui se lancent dans l'allaitement se retrouvent pas en échec avec de mauvais conseils qui leur sont attribués dans les démarrages. Ok, donc le conseil, c'est on se fait accompagner si on a envie de partir dans cette aventure. On fait pas le petit chimiste à la maison.
Et on suit des protocoles qui marchent.
Donc le protocole de Jack Newman. Vous êtes prêtes pour l'interview Fast Milk, les
filles ? Allez.
Avant qu'on skie. Allez, du coup, j'ai double réponse à chaque fois puisque j'ai 2 allaitements en un épisode, là, c'est génial.
C'est ça.
Quelle est, alors Catherine, d'abord, ta tétée la plus insolite ?
Alors, désolée, tu peux
me c'est the craziest one. Mais si, moi, je trouve que la plus drôle, c'était quand tu étais dans l'espèce de squat à Berlin, au milieu des tags et tout ça, à devoir allaiter le bébé quand on partait pour Chibo. Tu t'es retrouvée assise par terre dans un endroit complètement Berlin fou, au milieu de dealers et de n'importe quoi, tôt le matin, à devoir allaiter Isali assise par terre.
Ouais, et j'étais pas du tout à l'aise, j'essayais de me cacher un maximum.
Ouais, mais bon, c'est... moi j'ai une super photo, je crois.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Ok, bah ça c'est une bonne tétée insolite, c'est pas mal, hein.
Ouais.
Et toi, Mona ?
Et moi je dirais c'était dans l'avion. Il y a la sage-femme qui. Pas la sage-femme, l'hôtesse de l'air qui passe et qui nous demande qui est la mère. Nous on répond jamais à cette question, c'est ça ?
Non, elle est juste passée. Elle est passée comme ça, elle fait son travail. Et Isaïe, elle était, je sais plus, au sein de Mouna ou au sein de moi, parce qu'on démarrait. Et 3 minutes plus tard, elle repasse et Isaïe, il est à l'autre sein.
Elle a crié là. Elle a crié, mais elle a vraiment bugué. Elle a dit, mais quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle était surexcitée. Et voilà. Et là, elle nous a demandé, mais qui est la mère finalement ? Et nous, on dit jamais ça. Même si c'est évident, Isaïe est blond platine aux yeux bleus, mais. Et ce moment-là, et j'ai trouvé drôle parce que c'était une façon de considérer dans sa tête la façon d'être parent qui a complètement changé, ça a cliqué et moi j'ai adoré ce moment.
Ouais, en audio vous verrez pas, mais Mona est brune, bien brune, et Catherine est en effet blonde aux yeux bleus, donc en effet il y a moins de doutes pour savoir qui l'a porté. Ok, le truc le plus glamour qui vous a été donné de vivre pendant l'allaitement.
Ah non, bah moi, derrière la porte avec mon tire-lait la première fois et de savoir qu'il y avait des gens dans la maison, derrière la porte, dans les toilettes à mon travail, alors que j'étais pas enceinte et que personne n'était au courant que j'allais donner du lait, et de me retrouver à tirer mon lait avec la machine qui fait bzz, bzz, bzz. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser, quoi.
Ça, Catherine, t'as un truc aussi ou
Non.
Bah, ceci dit, ta tétée la plus insolite, là, l'été au milieu des dealers, ça peut marcher sur, sur un truc pas super glamour. Mais
Catherine a allaité partout, en fait. Moi, partout où elle allait, je la prends en photo. À chaque fois que c'est fou. Et on se retrouve toujours dans des situations... que ce soit pendu au-dessus du berceau, avec le sang dans sa bouche. Mais partout, partout. On était, en fait, on a beaucoup voyagé. Donc, on a, malgré le confinement, nous, je sais pas, on a réussi à passer entre les gouttes et... on a vraiment des allaitements dans tous les sens, quoi. Sur des bateaux,
partout. Ta position préférée, Catherine, dans le Kama Sutra de l'allaitement ?
Isaïe, il est toujours allongé. Et moi, soit assis, soit allongé aussi. Et ça a toujours été ça. Et il s'est mis en position déjà lui-même. Et, hop.
Et moi, quand je dors ?
Face à face.
Moi, le câlin dodo avec Isaïe coincé entre mon sein et mon bras... depuis qu'il est tout petit, ça, j'adore. Je l'ai vu grandir, j'ai vu son corps arriver petit à petit proche de ma main, le long de mon bras. Et là, maintenant, maintenant, il est grand.
Il dépasse.
Ouais, mais toujours bien coincé, bien moelleux, là.
Ok, et alors si en un mot, vous pouviez me résumer l'allaitement ? Ça peut être un mot à deux ou un mot chacune ?
Merveilleux.
Inespéré.
Ok, génial. Merci beaucoup les filles, je suis hyper, hyper contente et franchement hyper émue d'avoir recueilli votre témoignage que je trouve magnifique. En plus, ça n'a pas été tout repos, alors que ça se lançait facilement, quoi. Hein. Mona qui arrive à tirer du lait hyper rapidement, etc. Et puis après cet accouchement qui fout tout en vrac et malgré ça, cet allaitement un peu comme un fil rouge qui permet de garder le lien entre tout le monde. C'était hyper beau à écouter et j'en ai des frissons, donc merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Je suis ravie que ça permette d'informer des mamans qui comme vous sont en couple entre femmes, mais aussi l'entièreté de la population qui a juste besoin de savoir que ça existe, que c'est tout aussi normal que le reste et ô combien c'est génial. Quelle maman allaitante n'a pas rêvé à un moment de pouvoir mettre son bébé à un autre sein pour juste pouvoir faire un bout de nuit ou juste se relayer, parce que l'allaitement, on le sait, c'est très prenant et parfois on a besoin de relais. Ouais. Et les papas, aussi soutenants qu'ils peuvent être, ne peuvent pas mettre le bébé au sein. Et vous pouvez, alors... cool.
Eh ben, merci beaucoup. Pour nous, c'est un plaisir de raconter notre histoire et on espère que ça pourra aider des mamans adoptantes, des mamans non biologiques ou des femmes trans.
Ouais. Eh ben, j'en suis sûre. J'en suis sûre, ça va circuler. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en parler.
Merci à toi.
Je vous embrasse toutes les deux. Et puis, à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre I'll Be There, qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud. The voices in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. Can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I guide you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there.